La nuit, en général, c'est très dangereux de rouler parce qu'il y a énormément de vaches qui sont échappées des grands enclos et qui ont une tendance à se rapprocher des pistes. Donc, en général, tous les véhicules de location, il y a une régulation, c'est qu'il est interdit de rouler la nuit parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents. Comme les routes sont très droites et que, bon, là, ce soir, on a de la chance parce qu'on est en pleine lune. En plus de ça, on a de très bons phares, ce qui fait qu'on a une très bonne visibilité. Bon, malgré ça... Attention, il y a une vache juste à droite, là.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réécrire le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox vous réinvente un passé, voyage plus ou moins imaginaire dans le temps, en archives et en musique. Ce soir, des grands espaces et des aléas de toute domestication. Nous nous perdrons, en effet, dans l'immensité d'une île continent, l'Australie, celle des années 1980, dans les pas d'un voyageur aux prétentions énigmatiques. L'Australie, son bush, son outback, ses peuplements brutaux, son défi lancé quotidiennement aux lois de la survie, ses croyances ancestrales, ses bandits de grand chemin, mais aussi sa bande-son. Où l'on croisera des avions en plein désert, un dandy à mocassins, des sandwichs numérotés, des lapins de garenne et des chants sacrés. Ce soir, Jukebox, un walkabout australien.
La dernière fois que j'étais là, j'ai acheté un tableau qui était peint par quelqu'un, un artiste peintre de dimanche. Ce n'était pas un grand chef-d'œuvre, mais il y avait quelque chose dans le tableau qui me plaisait beaucoup. Et c'était surtout les couleurs et surtout les bleus qui m'ont attiré tout de suite. C'était une sorte de bleu lavande. Et je me suis dit, bon, on ne trouve ça qu'en Australie.
Lui avait dit, le bush est un paysage intérieur. Alors, tandis que le vent soufflait dans les eucalyptus, il contemplait cet infini de terre sèche, exposée à la lumière vive, blanche, accablante. Cette lumière qui, disait-on, vous mettait face à vous-même. Pour se protéger de révélations précipitées, Philippe était revenu sous la véranda où la femme, dans son rocking chair, affable, avait repris la conversation. Sirotant des ginger beers, elle lui avait fait la chronique de leur existence dans ce loin de tout, les cours des enfants dispensés par radio, les urgences médicales réglées par avion, un son en ville, une fois par an. Régulièrement, elle lui demandait s'il avait faim, mais la chaleur lui coupait l'appétit. Affalé à côté d'eux sur un sofa, un homme à qui Philippe n'avait pas été présenté en profitait régulièrement pour se rapporter de la cuisine du pain de mie graissé à la végémite, une pâte brunâtre à base de levure. Dans un silence, Philippe s'était mis à détailler cet étrange-là, vieux garçon, voisin ou cousin de passage, qui ne disait rien et enchaînait les tartines à base de levure qui, avait-il indiqué comme seul commentaire, permettait de maintenir en forêt, à distance, les bêtes féroces. Dépassant d'un short à la propreté douteuse, ses jambes étaient parfaitement galbées, hâlées, aérées. Engoncé dans son pantalon britannique, Philippe regrettait de ne pas avoir glissé de short dans son sac. Le temps s'était ainsi écoulé dans les effluves de chaleur, la femme lui faisant visiter la maison, similaire aux villas coloniales du sud des États-Unis, avec ses hauts plafonds, ses pièces fraîches et sa véranda orientée au nord. Dans un coin, une grosse télé était restée allumée, mais le son en avait été coupé, de sorte que, à un moment, ils avaient entendu assez nettement l'irruption d'un bourdonnement à l'horizon. « C'est lui qui pilote ?» avait demandé Philippe à la femme. « Oh non, autrefois oui, mais aujourd'hui, avec son Parkinson, vous imaginez ?» Et tous trois avaient regardé le petit bimoteur s'approcher lentement et se poser en faisant quelques bonds à une centaine de mètres de là, sur la terre rouge, parmi les buissons d'épineux.
Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard. Also ran, summing up people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion, right is might. Is tight, walking, walking in the rain. Come in, all you jesters, enter all you fools. Sit down, no, no. Fantastic, dance the swivel hips, coming to conclusion, button up your lips, walking, walking in the rain, walking, walking in the rain.
Entrez tous, plaisantins, bouffons, asseyez-vous, ogres et vampires, dansez en style avec les lumières, bougez, déhanchez-vous. Mais j'en viens à cette conclusion, taisez-vous, marchez, marchez sous la pluie. Enregistré en 1976 à Sydney, la new wave planante du groupe Flash and the Pan pour ce Walking in the Rain. Le lendemain, le ciel s'était couvert sur ce coin du Northern Territory et l'avion, pour éviter un orage, avait dû voler au-dessus des nuages. Notre homme avait fini par s'endormir, ses songes entrecoupés des souvenirs des conversations du dîner de la veille chez ses hôtes dans cette salle à manger à la longue table d'acajou. Et ce moment de bascule lorsqu'il avait mentionné un récit que lui avait fait son père de l'Australie, ce qui soudain avait glacé les choses. Finalement, tout ami de la famille qu'il était, il ne pouvait rester, lui avait glissé la femme à la fin du dîner, sous le ventilateur du plafond qui s'était mis à grincer. Et comme, en raison des résistances des aborigènes, le ranch des Wallace n'avait pas de route d'accès digne de ce nom, Philippe était reparti comme il était arrivé, en coucou. Après quelques heures de vol, il s'était fait déposer à Alice Springs, où le vieux parkinsonien l'avait renvoyé comme une patate chaude, vers un contact local, un Ukrainien qui bossait dans le terrassement et qui pourrait l'aider à déblayer ses problèmes. Alice Springs, tombée comme par accident en plein centre du continent, au milieu du désert de sable rouge, peuplé de moins d'hommes que de vaches, celle des cattle stations qui, tous les 200 km, assurent un semblant de vie dans cette immensité. Au milieu d'un tel désert, les 20 000 habitants du bourg suffisent à faire apparaître Alice Springs sur tous les atlas du monde, l'homme ayant horreur du vide. Engendrée par la découverte d'or au milieu du 19e siècle, colonisée à dos de chameaux, Alice Springs avait bénéficié de l'implantation très tôt du télégraphe, dont le pionnier local avait obtenu que la ville soit rebaptisée du prénom de sa femme adorée. Plus tard, le passage par elle d'une voie de chemin de fer, puis la Stuart Highway, la principale voie de communication entre le nord et le sud de l'île, avait fait de cette improbable bourgade un point de chute naturel dans la traversée du continent. À Alice Springs, Philippe avait pris ses quartiers dans un motel miteux donnant sur une route poussiéreuse. Le soir était tombé tôt, à 5 heures. Le casino, lui, ne fermait presque jamais et lorsqu'il en poussa les portes, il ne trouva plus de chaises libres aux tables. Quelques familles de touristes, américains ou hollandais, mais sinon essentiellement des types seuls, des locaux ou des chinois, des durs à la peau tannée, fendillée, dans laquelle se lisait encore la poussière de la journée. Les types paraissent désespérés, jouant le regard vide. Quand ils ont faim, ils commandent un truc à grignoter et 10 minutes plus tard, la fille, dans les haut-parleurs, annonce le numéro de leur commande et ils disparaissent. Philippe en profite pour se glisser parmi les joueurs et mise quelques dollars, rouge, perd. Il a du mal à comprendre les conversations autour de lui. Puis il se souvient de ce que le pilote lui avait dit en vol alors qu'il survolait les excavations qui grêlaient l'outback entre les vaches et les points d'eau. Mines, les mines. Fer, aluminium, manganèse, uranium, nickel. L'outback australien était un vrai supermarché des métaux. Au milieu du 19e siècle, ça avait d'abord été l'or, bien sûr, mais ces années 1980, l'opale et ses mille couleurs avaient pris le dessus, notamment à l'ouest et autour de Lightning Ridge. À chaque nouveau gisement naissait une ville, et puis des salles de jeu où ces forçats qui se faisaient sous terre des petites fortunes, 1500 dollars la semaine, n'oubliaient pas d'aller régulièrement tenter le diable, dilapidant ce qu'ils avaient arraché sous terre dans les chimères des machines à sous. Ces types qui, le reste du temps, quand ils ne bossaient pas, pariaient sur les courses de lévrier ou bien tondaient leur gazon le samedi rêvant aux vagues de Surfer's Paradise. Philippe, qui n'avait pas joué depuis longtemps, était en veine, même si, en fin de soirée, il aurait tout reperdu. Sur le parking, tandis qu'il cherchait les clés de son pick-up de location, il avait perçu comme un grognement qui s'était peu à peu matérialisé sous la forme de mots. Une ombre l'interpellait et lorsqu'il s'était approché, l'avait attrapé par la manche, débitant l'air mauvais, son aigreur. Le type en question, voix rocailleuse et accent cosaque, était venu se refaire d'une banqueroute, mais n'ayant plus un sou en poche, ça faisait 3 jours qu'il dormait dans sa bagnole garée sur le parking, espérant chaque soir gratter quelques dollars à des bonnes âmes pour se refaire. Tout ça, répétait-il inlassablement, à cause de ces bloody Ebos, comme il disait, ces tribus aborigènes qui lui mettaient des bâtons dans les roues, lui cherchant des noises à chaque portion d'asphalte qu'il envisageait de construire, arguant du caractère sacré du paysage. Que la terre retourne à la terre alors et ses ambitions à lui avec. Il n'avait pas fallu longtemps à Philippe pour comprendre que cette épave humaine et financière n'était autre que l'homme vers qui son parkinsonien de la veille l'avait envoyé. Et soudain, il réalisa qu'il était là, au milieu de nulle part, et que ce « nowhere » prenait des allures d'impasse. Train, but everybody.
body doesn't the same. The southern light is not a reflection. I'm lost, babe, I've got no direction. And I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own. Stranded, far from home. Come on. Does a man run at you? Made a man thing I can't do. You lost your mind stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Stranded far from home. Oh, come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. All right. There's an inner world insane. The cut is the heart is the brain. The feeling that love will do. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got the feeling alone. Come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own. Stranded.
Je vais perdre la tête, bébé, parce que je suis coincé là, tout seul, échoué, loin de chez moi. I am stranded, je suis paumé, chantait en 1977 Chris Bailey et son groupe de punk The Sense, originaire de Brisbane. Et on n'est pas loin de l'état d'esprit dans lequel notre homme à nous se trouvait alors. La journée avait été longue à tuer le temps dans les rues écrasées de soleil d'Alice Springs. Rien à faire à part regarder des gens monter et descendre de grosses cylindrées climatisées. Au comptoir du bar où il avait trouvé refuge, faisant fi des types alentours qui commandaient à tour de bras des schooners, ce que partout ailleurs dans le monde on qualifiait de pinte, il n'entendait plus que le bruit des glaçons qui grelottaient dans son café. C'est alors que l'autre était entré et, comme s'il le connaissait, s'était immédiatement dirigé sur le tabouret voisin du sien. Avec ses vêtements de marque et ses mocassins soignés, ce blond aux yeux bleus faisait tache parmi les bouseux d'Alice Springs. Il s'était présenté. Chatwin, c'est du vieil anglais, avait-il précisé. Ça signifie « chemin sinueux ». Quand Philippe lui avait demandé ce qu'il faisait par ici, l'autre lui avait sorti son passeport où, à la case profession, était inscrit « agriculteur ». Une blague qu'il prolongea un peu trop longtemps d'un petit rire hystérique. Ce type, manifestement, aimait le fantasme, le roman de la vie. Il était là depuis quelques jours. « Je passe mon temps à fuir, j'ai la bougeotte ». Et avant que notre homme n'ait eu le temps de lui dire que lui aussi, l'autre avait déroulé sa vie. Des années plus tôt, il travaillait chez Sotheby's à Londres comme porteur de tableaux, puis comme directeur du département de peinture impressionniste. Il avait l'œil. Sauf qu'un jour, son œil lui avait joué des tours. Il avait failli devenir aveugle. Son ophtalmo lui avait dit « Élargissez vos horizons, sautez dans des avions ». Il était donc parti en Afrique, au Soudan. Il était devenu grand reporter. Puis il était allé en Patagonie, d'où il avait rapporté un bouquin qui avait rencontré un succès fulgurant. Bref, cette sorte de snob anarchiste et aventurier était arrivé sur place en Australie le mois précédent pour se documenter sur la région et sur les aborigènes. Tandis que la nuit tombait sur Alice Springs, notre homme lui avait raconté sa fin de soirée de la veille, ce terrassier ukrainien ruiné par la caillasse mythologique des aborigènes. « Tu sais, lui avait répondu Chatwin, que chez les aborigènes, à chaque territoire se rattachent des champs. » Que chaque portion de chemin, chaque caillasse parfois, possède un chant lié dont héritent ces aborigènes. Ils appellent ça des itinéraires chantés, des songlines. Et l'autre lui avait parlé du Dreamtime, ce temps du rêve qui, pour les aborigènes, désignait cette époque antédiluvienne, avant même la création de la Terre, quand tout n'était qu'esprit. Puis, à mesure que la Terre se constituait, ses esprits s'étaient retirés, s'incarnant dans les montagnes, les plantes, les fleuves, les animaux. Des esprits que les aborigènes pouvaient convoquer en rêve ou par le chant, prenant ainsi des nouvelles de leurs ancêtres ou déchiffrant les présages. Il se faisait tard et Philippe et l'Anglais, abrutis par la bière, s'étaient fait une raison. Au moment de monter dans sa voiture, Chatwin avait lâché « Tu veux m'accompagner la semaine prochaine? Je dois justement aller rencontrer le chef d'une tribu pour qu'il me tuyote sur ses pistes sacrées. » Une heure plus tard, sur les ressorts grinçants de son motel miteux, forcément, le sommeil de Philippe s'était peuplé de la présence de ces mystérieux autochtones, descendants des ancêtres du monde. Composé par le musicien Joe Wandy et interprété dans différentes langues aborigènes, ce Kujara qui renvoie à la dualité et à l'esprit double, toi, moi, nous ensemble, appelant à réconcilier les êtres, à surmonter les rancœurs passées et à partager richesses, culture ou connaissances. Les aborigènes qui s'étaient donc invités dans les rêves de Philippe et qui, depuis, excitaient sa curiosité. Sauf que, comme il s'en doutait vaguement, l'autre, l'anglais, Chatwin, n'avait jamais rappelé, ni les jours suivants, ni la semaine d'après. Il ne l'avait plus aperçu dans aucun des pubs de la ville. Une poignée d'années plus tard, en 1987, il apercevrait dans une librairie de Londres le résultat de ses recherches affichées en vitrine, Songlines, qui deviendrait un best-seller. Mais, pour l'heure, n'ayant plus rien à faire ni personne à voir à Alice Springs, Philippe avait quitté la ville. On lui avait parlé de l'Ouest, il voulait aller y voir de plus près, et puis aussi, il étouffait, espérant trouver sur la côte l'air qui manquait tant dans l'Outback. Ce jour-là, tandis qu'il roulait en voiture, au milieu de carcasses calcinées marquant les espoirs douchés de prospecteurs d'opale, il pensa à la délicatesse de cette pierre, à ses mille couleurs, surtout lorsqu'elle est accrochée en pendentif. Et par ricochet, il songea à la fille qu'il avait plantée quelques jours plus tôt lors d'un transit orageux à l'aéroport de Singapour. Il se dit qu'il avait peut-être fait une connerie. France Culture, Jukebox, ce soir Australie, la tentation du Nil.
Wasted, wounded, it ain't what the moon did. God, what I paid for now. See you tomorrow, if Frank can I borrow a couple of bucks from you. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my stasis is soaking wet. I do go waltzing Matilda, waltzing Matilda. The dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me, you tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Old Bushmill, I staggered, you buried the dagger, your silhouette window light. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now I lost my St. Christopher, now that I've kissed her, and the one-armed bandit knows. And the maverick Chinaman in the cold-blooded signs, and the girls down by the striptease shows go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, the fugitive say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets
and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go, old Saint Matilda, old Saint Matilda, you go, old Saint Matilda, with me, and you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know. Matilda's the defendant, she killed about 100, and she follows wherever you may go. Old Saint Matilda, old Saint Matilda, you go, old Saint Matilda. It's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
Brûlé et blessé, j'ai ce que je mérite maintenant. Hey Franck, je peux t'emprunter quelques billets pour emmener faire valser Matilda. Matilda, tu viendras valser avec moi? Je suis une victime innocente d'un cul-de-sac, j'en ai marre de tous ces soldats ici. Personne ne parle anglais et tout est brisé. Tom Waits est la complainte de ce Tom Traubert's Blues, publié en 1976 et inspiré d'une vieille chanson du folklore australien, chanson signée Banjo Paterson, Waltzing Matilda, composée un siècle plus tôt et devenue depuis l'hymne officieux du pays, narrant l'histoire peu reluisante d'un pauvre journalier qui s'était fait arrêter un jour pour avoir volé un mouton, préférant se noyer plutôt que de passer en jugement. Ce blues de l'Australie, ce blues d'un pays violent, d'un pays de dingues, de bagnards et d'exclus qui s'était constitué dans la violence. Car au début donc de l'Australie étaient les aborigènes qui, il y a 40 ou 50 000 ans, seraient descendus d'Asie pour venir s'installer sur cet immense caillou. Du temps avait passé, et tandis que ces peuplades menaient une existence plus ou moins paisible dans l'outback, le désert australien, des Portugais puis des Hollandais étaient passés par là au XVIIe siècle. Puis James Cook était tombé lui aussi sur l'Australie en 1770 et avait offert à la couronne britannique cet endroit idéal pour y reléguer ses indésirables. Ces condamnés en tout genre que la perte récente des colonies états-uniennes empêchait d'y envoyer. Le 19 janvier 1788, après 10 mois de trajet, débarquent ainsi à Botany Bay, au sud de l'Australie, 11 navires transportant 700 condamnés, coupables seulement parfois d'avoir volé une miche de pain. Parfois ce sont des républicains irlandais ou de simples filles de joie. Ces convicts, comme on les appelle, sont encadrés par des militaires, mais hélas, par aucun ingénieur agricole, ce qui les aurait bien aidés au début. Tout ce petit monde avait donc pris possession des lieux depuis l'emplacement de l'actuelle ville de Sydney afin d'y suer et d'espérer des jours meilleurs. De 1788 à 1868, il en était arrivé 166 000 regroupés dans des prisons à ciel ouvert, notamment en Nouvelle-Galles du Sud ou bien sur la terre de Van Diemen qui bientôt avait pris le nom de Tasmanie. Exploité par quelques gros colons ayant tout de suite compris l'intérêt d'une main-d'œuvre si bon marché. My eyes blew out, I can find the sea. mes yeux ont éclaté, je pouvais enfin voir les choses, océans tropicaux et magiques, les organes des gens tournant dans la mer. Je retombais dans le mouvement perpétuel. Le groupe Didi Dumbo, originaire de Castle Maine, petite ville fondée lors de la ruée vers l'or pour ce Tropical Oceans de 2013. Lorsqu'ils étaient arrivés sur place, les colons britanniques étaient donc tombés sur les tribus locales, environ 350 000 personnes, ceux que l'on s'était mis à désigner abusivement, sous le terme vague et générique, d'aborigènes. 250 tribus, le double d'ethnie, parlant 300 langues et plus encore de dialectes. Diplomates, les premiers colons avaient emporté avec eux quelques cadeaux, miroirs, loupes ou autres babioles pour appâter le chaland. Dans certains cas, ça s'était bien passé. Hélas, la volonté britannique de s'accaparer ces territoires, qu'ils considéraient comme vierges de tout propriétaire, avait rapidement gâté les relations avec les ethnies locales. Moins toutefois que les virus que ces Anglais charriaient avec eux, à commencer par l'alcool, que les aborigènes ne connaissaient pas et qu'ils supportent mal, mais aussi, et plus ravageur encore, une foule de maladies infectieuses, variole, rougeole, grippe, qui font tomber les aborigènes comme des mouches. Malgré cela, la supériorité numérique des aborigènes inquiète les autorités coloniales qui assistent effarées à la multiplication de métis, menaçant la pureté de la race blanche qu'ils fantasment. La loi avait ainsi autorisé le gouvernement à saisir les enfants métis, soi-disant pour s'assurer de leur bien-être en les intégrant à des familles d'Européens, mais sans doute aussi pour accélérer le blanchissement du continent. Et puis, il fallait bien arracher ces peuplades primitives à l'obscurantisme de leurs croyances, lesquelles, quelles que soient les ethnies, se retrouvaient autour d'une vision ancestrale, le concept du Dreamtime, sorte d'espace-temps parallèle au présent, dans lequel ces aborigènes revisitaient en rêve l'histoire de la Terre, le passé de leurs ancêtres, et trouvant matière à lire le futur.
Well, nighttime. La nuit, avant d'aller me coucher, je parle à l'étoile, je médite. Je me repose mentalement. Mon esprit se vide et il peut recevoir l'énergie de l'étoile. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les étoiles. Dans notre culture, on a des relations avec la terre, les animaux, les arbres, les herbes, la médecine par les plantes, tout ça. On a aussi une relation avec le ciel. De temps en temps, on affabule un peu, mais on répète toujours ce qui nous a été transmis du Dreamtime, lorsque les premières mères se trouver sur cette terre. Je suis sorcier et en plus je suis barde. S'il y a une danse, je chante une chanson, mais ce sont des danses sacrées uniquement. Des chansons pour la circoncision ou lorsqu'on essaye d'apprendre, d'enseigner quelque chose aux enfants.
Il n'y a pas de chanson, pas du tout, que vous puissiez nous chanter sur cette terre?
Non, pas une seule chanson sur cette terre. Chez moi, j'ai le droit de chanter, parce que je suis sur ma terre. Parce qu'on ne veut pas gêner l'esprit des ancêtres qui se trouvent sur la terre, c'est pour ça. Ça fait partie de notre rite. On n'a pas le droit de chanter sur la terre de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas le droit de parler de la terre de quelqu'un d'autre, à moins qu'on fasse partie du groupe.
Archives France Culture, extraite de l'émission L'échappée belle de Marie-Hélène Freyssé, 1988.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke.
was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Autour de frères nés sur l'île de Man, mais débarqués plus tard en Australie, les Bee Gees, première période pour ce I Started a Joke, publié en 1968. Five, four, en 1874, un Britannique amateur de chasse et nostalgique de son biotope natal avait importé 24 lapins de garenne. 12 couples qui, faute de prédateurs présents sur place, prospérèrent si bien qu'un demi-siècle plus tard, on en dénombrait 30 millions. Pâturage, récolte, arbuste, rien ne leur résistait. Ils menaçaient même l'alimentation d'autres espèces comme les wallabies, ces petits kangourous jusqu'alors très nombreux au sud de l'Australie. Chasse, piège, explosif, poison, rien n'y faisait. Le lapin progressait, fort de la capacité reproductive qu'on lui connaît et de sa propension à se déplacer à toute allure. En 1901, on avait bien entrepris la construction de 1800 km de clôture pour en épargner les terres cultivées de l'Australie occidentale, mais un lapin était passé par les mailles du filet, puis deux, puis quatre, puis huit. On avait fini par introduire la myxomatose, puis d'autres virus conjugués à l'introduction de renards qui préférèrent toutefois s'attaquer à d'autres espèces. Les animaux qui avaient participé à cette lutte pour la domestication de l'espace depuis les chameaux utilisés pour se déplacer dans le désert et jusqu'en 1950 par certaines brigades policières jusqu'aux buffles qui, comme les lapins, avaient pullulé depuis l'introduction d'un mâle et d'une femelle au début du XXe siècle. Les aborigènes, eux, maîtrisaient mieux les choses, sachant mettre à profit la nature. Par exemple, quand la soif se fait sentir, dénicher et déterrer les grenouilles des sables, se saisissant de ces petits amphibiens qu'ils portent au-dessus de leur tête et dont ils pressent lentement le corps afin d'en libérer l'eau fraîche stockée dans leur vessie, si désaltérant comme au goulot d'une gourde. Les animaux, la gestion des troupeaux, des ressources naturelles qui, très tôt, avaient constitué une clé pour la survie, suscitant toutes sortes de convoitises, de vols, de trafics. nourrissant aussi la mythologie des Bush Rangers, les Rangers du Bush, ces rebelles à toute autorité, petits délinquants ou hors la loi, dont le plus célèbre, un certain Ned Kelly, après avoir été accusé justement de vol de chevaux et d'autres petits larcins, était tombé un jour de 1880 lors d'une rixe avec les policiers partis à ses trousses, malgré le home et l'armure métallique dont il s'était recouvert.
Such is life.
They turned him out of Beechworth jail in 1871. He put in 3 long years behind those walls for the stealing of a horse, which he swore he'd never done. But now he sees the sun and turns his back upon it all. Walk softly, cried the magistrate who counted up the score. Walk softly, cried the turnkey as he clanged the iron door. Walk softly, cried his comrades, cringing on that prison floor. But the summer's on the meadow, and the wind is in the gum tree, and the Beechworth jail is many miles behind you. In a prison ship and shackles, his father reached this land. He stole one pig, and for that crime he paid. Inside a cold, dark prison cell, he died a broken man. And he left his wife to curse the crown while his children dug his grave. Speak softly, cried the jailer, laying slop upon his plate. Speak softly, cried the turnkey as he opened up the gate. Speak softly, cried his mother, it's been oh so long to wait.
Le chanteur américain Waylon Jennings pour ce Ned Kelly tiré de la bande originale du film éponyme racontant avec Mick Jagger dans le rôle titre la vie et la fin tragique de ce tueur de flics et icône populaire. Ned Kelly dont l'histoire avait aussi donné naissance au tout premier long métrage de l'histoire du cinéma mondial, The Story of the Kelly Gang, sorti en 1906 de l'un des premiers studios de production construit quelques années plus tôt par l'Armée du Salut à Melbourne. Cette violence des bushrangers attaquant les banques des petites villes ou bien des diligences qui avaient bien sûr continué d'infuser à travers le pays, s'illustrant de temps à autre, comme dans tous les bouts du monde, à travers les règlements de compte entre mineurs ou bien ces cadavres non identifiés retrouvés une balle de 11-43 dans le front.
Just why? Sorry, 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 sorry that I didn't go last night. Had a date in September with a girl named Flood. Then I just remembered had a date with her.
Sorry, comme le chantait en 1966 le groupe Easy Beats, les pionniers du rock local, un groupe fondé en 64 à Sydney par des enfants d'immigrés britanniques ou hollandais. Easy Beats, qui était devenu le groupe le plus célèbre sur place grâce à leur Friday on My Mind, publié sur leur dernier album avant que le groupe n'émigre en Angleterre. Des excuses, l'Australie mettrait du temps à en formuler envers les aborigènes dont la mobilisation pour la reconnaissance de leurs droits était montée en puissance à la fin des années 50. En 64, des étudiants de l'université de Sydney avaient organisé le Tour de la Liberté, une tournée en autobus à travers le sud du pays pour dénoncer les cas de ségrégation, protestant contre les piscines ou les clubs qui excluaient les autochtones. Le grand public commença à être sensibilisé à la question du racisme et 3 ans plus tard, les aborigènes devenaient, à l'issue d'un référendum, citoyens australiens à part entière. Bien plus tard, le gouvernement s'excuserait officiellement dans l'enceinte du Parlement pour ce que l'on appelle « the stolen generations », les générations volées, ces milliers d'enfants arrachés à leur famille pour être placés dans des institutions ou des familles blanches histoire de leur inculquer une éducation à l'européenne. Des enfants qui avaient souvent connu des sorts peu enviables, interdits de pratiquer leur langue natale, recevant une éducation limitée et confrontés parfois à des violences sexuelles. Archive Kevin Rudd, le premier ministre du gouvernement fédéral d'Australie, le 13 février 2008.
Today we honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures.
Aujourd'hui, nous honorons les peuples autochtones de cette terre, la plus ancienne culture encore vivante de l'histoire de l'humanité. Nous nous retournons sur les mauvais traitements passés dont ils ont fait l'objet, notamment ceux infligés aux générations volées, cette tache de l'histoire de notre pays. Nous nous excusons pour les lois et les politiques des parlements et gouvernements successifs qui ont infligé chagrin, souffrance et perte profonde à nos compatriotes australiens, en particulier pour le retrait des enfants des indigènes du détroit de Torres, de leurs familles, de leur communauté et de leur pays. Pour la douleur et la souffrance de ces générations volées, de leurs descendants et de leurs familles laissées pour compte, nous nous excusons. Nous faisons aujourd'hui ce premier pas en reconnaissant le passé et en revendiquant un avenir qui englobera tous les Australiens, un avenir dans lequel ce Parlement décidera que les injustices du passé ne doivent plus jamais se reproduire. Ce jour de 1984, le gouvernement australien n'a encore émis aucun acte de contrition et les Blancs continuent de vivre, pour certains, dans un paternalisme bienveillant vis-à-vis des Noirs, comme ils appellent les aborigènes. Philippe, lui, barbote autour d'une piscine dans un hôtel huppé de Sydney. Demain, il sautera dans un avion pour rentrer à Londres. Ces 3 mois d'errance n'ont pas résolu son problème. Pire, il ne sait même plus très bien pourquoi est-ce qu'il avait réagi de la sorte à Singapour et tout plaqué pour s'échouer ici. Autour de lui, il observe la jeunesse urbaine australienne, bronzée et athlétique, sûre d'elle-même. Ces gamins nourris au bon grain, aux largesses de l'État-providence et aux VHS qu'ils enchaînent sur leur magnétoscope. Cette jeunesse que ne menace guère que l'ennui, une forme d'écœurement face à tant de confort. Alors Philippe repensa au walkabout rituel des aborigènes, ces rites de passage, errance initiatique qui intervenaient en général à l'adolescence, 3 à 6 mois de voyage solitaire au cours desquels les jeunes aborigènes se retiraient dans le bush ou l'outback ou bien rendaient visite à un parent à l'autre bout du continent. La tradition s'était maintenue et les employés aborigènes d'une entreprise faisaient valoir parfois ce droit à la mobilité temporaire nécessaire à leur équilibre spirituel ou culturel. Au fond, Philippe réalisa que son voyage s'était peut-être résumé à ça, une parenthèse qu'il venait de traverser comme un songe et dont les enseignements surgiraient peut-être un jour. c'est sur cette Average Inadequacy, cette insuffisance moyenne sortie en 1981 par le groupe de Sydney Machinations que se referme ce numéro de Jukebox. Aujourd'hui, un walkabout australien. Merci à Thierry Beauchamp pour ses conseils, à Antoine Villoz pour ses recherches musicales, ainsi qu'à Vanessa Nadjar pour sa réalisation. À lire notamment Le Champ des Pistes, signé Bruce Chatwin et traduit par Jacques Chabert chez Grasset. Rendez-vous sur franceculture.fr pour réécouter ou télécharger cette émission. Vous y retrouverez la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité d'exporter les playlists sur Spotify, Deezer ou YouTube. Ce soir, à la technique, c'était Xavier Lévesque. Au micro, Amaury Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.